Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le couple, vous n'avez que ce mot à la bouche. Voilà ce que pourraient nous dire certains auditeurs tant nous faisons régulièrement des émissions sur cette relation. Il faut dire que l'amour de l'homme et de la femme est rien moins qu'image de Dieu lui-même, répondrait certainement mon premier invité de ce matin. Il faut dire que l'amour est un travail et qu'il a parfois des airs du travail d'une Pénélope, tant il faut chaque jour reprendre son ouvrage, ajouterait certainement mon deuxième invité. Le couple, une réalité à laquelle, pour ceux qui sont en couple, il est plus difficile que jamais de ne pas faire face. Alors, pour nous aider en cette période de confinement, nous avons fait appel à deux spécialistes, deux de nos poids lourds du couple, comme on dit. Grandir en couple, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pendant ce temps de confinement, continuez à prendre soin de vous comme on le peut, de votre vie de couple, de votre vie de famille et de votre vie de travail, en essayant de vous donner des clés en ce jeudi pour mieux vivre. Faut-il le rappeler, chers auditeurs, nous sommes en pleine semaine de Radio Don. Voilà, la radio a besoin de vous, cette radio, c'est la vôtre, elle vit grâce à votre générosité. Un seul exemple, je le citais hier, je vais vous le redonner, peut-être avec plus de précision. Une heure de programme, comme cette émission là que vous allez écouter pendant une heure, c'est 250 €, tout simplement, quand pour une émission de France Bleu de la même durée, c'est 750 €, et pour France Inter, plus de 7 000 €. Voilà, nous avons besoin de vous. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Pour cette émission, nous sommes donc en compagnie de vous deux. Vous êtes donc les deux auteurs de ce livre, Grandir en couple, paru aux éditions des Béatitudes. Marie-Aude Binet, faut-il vous représenter? Vous êtes sexologue, conseillère conjugale et familiale. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Michel-Martin Prével, vous êtes donc prêtre religieux de la communauté des Béatitudes, accompagnateur donc de couples, entre autres via ce parcours Toby et Sarah pour les couples en difficulté, et co-auteur de ce livre. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, ce livre, je le dis, petit secret de fabrique, j'en lis des livres, mais on me demande rarement, si à la fin de chaque émission, ce que j'ai réellement pensé du livre, n'est-ce pas? Bref, je me dis souvent que ça vaudrait le coup d'en écrire des plus courts, parce que peu de monde a le temps de lire des livres de 200 ou 300 pages, et vous avez réussi, j'ai pas compté le nombre de pages exactes, mais on doit pas dépasser les 70. On se balade dans ce livre avec beaucoup de plaisir. C'est un livre très joli, joliment illustré, qui est comme un arbre, on va le parcourir, et dans cet arbre, vous nous racontez quelles sont les différentes strates de l'amour, les racines, le tronc, les branches et les feuilles. Alors je vais commencer par cette phrase, parce que je pense qu'elle taraude ceux qui sont en couple parfois, ceux qui l'ont été, ceux qui ont raté, ceux qui espèrent être en couple. Réussir son mariage n'est pas tomber sur la bonne personne, ce qui se conduit à le rendre responsable en cas d'échec, mais c'est réussir dans les échecs et les faiblesses inévitables. Réussir son mariage, ce n'est pas tomber sur la bonne personne, Marie-Aude Binet. Est-ce vraiment vrai?
Eh bien, écoutez, on va reprendre. Il était une fois, dans les contes de fées, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, ils furent heureux. Oui, ça c'est le rêve, l'illusion, et puis après il y a la réalité. Alors on commence l'émission sur une note qui n'est pas si facile que ça, hein, Emmanuel, parce que oui, le couple c'est tout un chemin, c'est un beau chemin, c'est une belle aventure à vivre, mais comme dans toute aventure, eh bien, il peut y avoir des moments où on tombe, on chute, ça peut être compliqué, et c'est là qu'on met à l'épreuve l'amour et la solidité du lien en lui-même. Parce qu'en fait, un couple, c'est d'abord quoi? C'est un lien qui se construit. Et ce lien, il se base sur l'amour, mais pas que. Il se base sur deux volontés, il se base quelque part. Aimer, c'est pas juste je t'aime, c'est je veux t'aimer. Et en fait, c'est sans cesse à redire.
Michel-Martin Prével, je sais que c'est un de vos credos, mais y a-t-il quelque part un romantisme autour de l'amour? Je pense non seulement aux couples que vous accompagnez, mais aussi peut-être tous ceux que vous accompagnez spirituellement, à des jeunes filles ou des jeunes hommes qui cherchent l'amour. Il n'y a pas une élue ou un élu, il n'y a pas deux bonnes personnes en fait.
Oui, parce que voilà, c'est vrai que l'amour c'est tellement fort que ça fait tout de suite quelque chose qui tire vers de l'absolu, et pour cause, puisque Dieu est amour, ça nous le savons bien les chrétiens, et qu'il y a quelque chose qui est très élevé dans l'amour, qui est une sorte d'énergie, de puissance impressionnante. Et pourtant, ça repose sur ce qu'est la misère humaine, parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes blessés. Et parce qu'il y a cette imperfection, on n'arrive pas à conjuguer à la fois ce grand désir qui est dans notre cœur, c'est le, pour la plupart des gens, c'est le mariage, l'amour, c'est vraiment le lieu du bonheur par excellence. Et alors, on est forcément très déçu. Et c'est ce romantisme, effectivement, qui entretient cette idée d'une illusion. Et que tant que ça fonctionne, et c'est comme ça au départ, parce que le bon Dieu l'a voulu comme ça, on a le sentiment amoureux, c'est très bien. Mais après, et c'est pour nous, c'est ce qui est important, c'est l'après, c'est durer, c'est croître. C'est pour ça qu'il s'agit bien de grandir en couple. Et qu'il faut 60 ans pour faire un couple, comme dit Boris Cyrulnik. Et rentrer dans cette dynamique-là, c'est être dans le réel. Donc dans le réel de chacun, qui a aussi ses misères, ses égoïsmes, etc.
Et ce qu'on entend derrière, c'est que quel que soit en fait le mariage que l'on ait fait, ou alors la personne avec qui on est en couple, il y a toujours matière à espérer. C'est ça qu'il faut entendre derrière.
Et quand ça ne va pas très fort, c'est la question des couples qui sont en difficulté, qui sont au moment où il pleut beaucoup. Il y a aussi le soleil au-dessus des nuages, vous savez. Et donc, il y a toujours, je crois, c'est ce que fait beaucoup Marie-Aude Binet, parce qu'elle accompagne des couples pour les sauver. Et moi aussi, c'est mon désir le plus profond. C'est de donner une parole d'espérance, une bonne nouvelle sur le mariage. Mais de fait, il ne faut pas se tromper sur les moyens.
Alors, c'est bien, vous avez répondu à une autre question que je voulais vous poser, parce que vous en écrivez des livres sur le couple. Vous n'êtes pas votre premier, je ne les citerai pas tous, mais par moments, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils en écrivent autant? Mais c'est bien, vous avez répondu. Il est urgent de sauver l'amour, c'est ce qu'on entend derrière vous. Alors, autre question du début, il faut dire que ce livre est donc pour, certes, les couples, mais particulièrement pour les couples mariés, si j'ai bien compris, ceux qui sont engagés dans le mariage. Il y a cette belle phrase de Jean-Paul II, ce sacrement primordial, ça n'est pas forcément connu de grand monde. Est-ce que vous pouvez nous redire, Michel-Martin Prével, ce que Jean-Paul II appelait par ça, ce sacrement primordial, qu'est-ce que ça veut dire ?
Primordial parce que c'est dans le projet de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Et si l'humanité commence par un couple, c'est pas rien, ça n'a pas commencé avec des célibataires. C'est quand même le lot le plus courant pour les hommes aujourd'hui de s'attacher hommes et femmes, et de pouvoir effectivement vivre cette immense aventure qui s'appelle l'aventure de la vie à deux et qui se consolide avec le mariage. Alors c'est pas d'abord parce qu'il y a une institution ou même un sacrement, mais c'est parce que c'est inscrit au cœur même de l'humanité. C'est un sacrement primordial au sens où ça fait partie d'un logiciel qui, dès le départ, pour l'humanité, fonctionne comme un petit peu au-dessus de toute la création. Il y a ce projet extraordinaire que deux personnes qui sont tellement différentes peuvent arriver à mettre ensemble ce qu'elles sont pour faire une troisième personne. Alors c'est l'idée que le mariage, ça marche à trois et pas à deux. On est un couple et c'est l'homme et la femme qui, faisant un couple, des deux, ils feront une seule chair. Voilà le troisième. Et ça, cet équilibre-là, il ressemble même à l'équilibre, la relation entre les trois personnes de la Trinité. Donc ça va très très haut comme modèle. Et pourtant, c'est possible, je dirais, dans le quotidien, l'ordinaire de la vie.
Marie-Aude Binet, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été un peu la logique de cet ouvrage ? On le parcourt donc comme un arbre. On ne va pas détailler tous les chapitres, hein, mais en tout cas, il y a un beau dessin au début. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette image ? Et est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être les grandes lignes de cet arbre ?
Alors, en fait, l'idée, c'était de permettre à des jeunes qui se préparent au mariage ou qui réfléchissent à la vie conjugale, ou des personnes qui sont déjà, comme vous avez dit tout à l'heure, en couple et qui traversent des moments un peu de doute ou d'épreuve, d'avoir toute une référence globale sur la vie conjugale de la rencontre. Et du coup, le dessin commence par la graine, c'est-à-dire le moment où on tombe amoureux, on se rencontre, jusqu'à l'épanouissement total de la relation, qui est l'arbre final, un peu comme un beau chêne sous lequel on a envie d'aller s'asseoir. Et en sachant que l'arbre va prendre racine, alors quelles sont ses racines qui sont, pour donner quelques exemples, le dialogue, d'apprendre à se connaître. Au début, quand on tombe amoureux, on va vouloir mieux se connaître, savoir qui on est. On va aborder la sexualité, on va aussi découvrir ce que c'est que la gratitude et aussi découvrir cet engagement dans une grande liberté. Voilà, c'est-à-dire que le mariage n'est pas quelque chose qui enferme. La relation de couple, même sans mariage, n'est pas quelque chose qui enferme, mais au contraire, une manière de grandir aussi déjà soi-même.
Donc, origine, racine.
Voilà, et ensuite, il y a la vie intérieure du couple. Tout ce qui va constituer son intimité. Alors, l'amour, la volonté qui s'exprime pour être avec l'autre, comme je disais tout à l'heure, je veux t'aimer. Quelquefois, ce qui va créer des failles, les infidélités, et la notion de pardon face à des épreuves que l'on peut vivre, mais on va penser aussi comment prendre soin de son couple, comment mieux communiquer. Et on va finir par, je dirais, tout l'épanouissement de l'arbre avec les branches et les feuilles, où là, on va être sur la vie extérieure du couple, avec la présence, les interactions avec les familles, les belles familles, les amis, les enfants, le travail, les loisirs, les projets du couple, la vie spirituelle du couple, et puis voilà, toutes les épreuves de manière générale, comment le couple va ensemble à deux les dépasser.
Et on a une table des matières qui, pour une fois, va de bas en haut, du coup, va des racines jusqu'aux feuilles. Alors, on va se plonger dedans. On va commencer par directement les racines. J'en ai choisi quelques-unes. On ne pourra pas parler de toutes. L'altérité homme-femme. Alors, ceux qui sont habitués de cette antenne se diront, mais quoi de neuf, docteur? Que puis-je apprendre de plus? Eh ben, pourtant, moi, j'en parcours des livres. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait un condensé presque, peut-être, de ce que vous avez pu écrire, même si je n'ai pas lu toute votre littérature. Je tire cette phrase. L'unité se construit en se réjouissant de la différence, anti-jalousie, dites-vous, en travaillant au bien de l'autre, anti-égoïsme, et en voulant l'autre supérieur à soi. Alors, si j'enlève les parenthèses, ça donne l'unité se construit en se réjouissant de la différence, en travaillant au bien de l'autre, et en voulant l'autre supérieur à soi. C'est presque une règle spirituelle, Michel Martin Préval, non ?
Oui, parce que, voilà, l'amour, ça ne peut pas aller tout seul. De même que n'importe quelle vocation, on le voit aussi dans la vie professionnelle, dans toutes les activités de l'homme, on voit qu'on a besoin de se donner des moyens, et donc ça s'appelle se donner aussi une règle. Alors il ne faut pas être étonné que l'amour, ça a besoin de règles. Alors c'est comme ça qu'on a essayé de codifier un peu ça, parce que c'est vrai qu'on est très, très tourné vers le fait que des personnes ont un trésor, finalement ils ont un trésor dans leurs mains, et ils ne l'utilisent pas tout à fait comme il faut. Est-ce qu'il manque pas une sorte de très bon, comment dit-on, quand on achète un appareil, on a tout de suite avec le mode d'emploi.
Alors, voilà. Si vous deviez détailler un tout petit peu cette petite règle que vous donnez, l'unité se construit en se réjouissant de la différence, pour commencer, en travaillant au bien de l'autre et en voulant l'autre supérieur à soi, si vous deviez le...
Oui, parce que la mécanique, hein, c'est qu'on ne s'oublie pas soi-même, on ne se sacrifie pas. On n'a pas cette vision de disparaître pour être dans l'autre. Ça, c'est très romantique, justement. On a au contraire la certitude que je suis moi-même une personne, et donc cette unité ne se fait pas sans elle se fait sans détruire les autres. Et donc on ne se retrouve finalement dans une différence que, curieusement, pourtant, on va souffrir aussi de cette différence. Parce que le mystère d'altérité, on n'a pas fini. C'est pour ça qu'il faut vivre 90 ans. Parce qu'il faut encore découvrir avec du temps, de la durée, tout ce qu'est l'autre. Et on croit qu'on connaît l'autre au bout de 2 ou 3 ans, alors que la vie est du changement. Et parce qu'il y a du changement, parce que je change, parce que tu changes, notre couple doit changer. C'est pour ça qu'on est perpétuellement dans une croissance, non pas à courir après le temps, mais à garder cette dynamique, cette différence, peut-être à la fois source de conflit. Et en même temps, c'est dans cette différence que je trouve à grandir, parce que l'autre m'apporte quelque chose, et cette dimension de vouloir construire l'autre, de travailler au bien de l'autre, c'est exactement la définition de l'amour. Parce que l'amour, c'est pas trouver du plaisir avec quelqu'un, c'est trouver du plaisir à ce que l'autre grandisse.
Alors, il y en a, celle-là, je vais m'arrêter dessus, tant pis, on va s'arrêter un petit peu plus longtemps sur altérité homme-femme. Il y en a une autre très belle. L'amour est à la fois un manque qui nourrit le désir et un comblement qui apaise. Je ne sais pas de qui de vous deux elle est, parce que vous n'avez pas signé à chaque fois vos paragraphes. L'amour est à la fois un manque qui nourrit le désir et un comblement qui apaise. Mario de Binet, ça aussi, c'est quelque chose que vous voyez dans votre cabinet quelque part. On en rêve tous de l'amour, mais dans le fond, on est tous lancés dans une aventure qu'on ne maîtrise pas.
Et non, et l'amour a cette particularité d'être soit en effet comblant, soit très insatisfaisant. Donc on peut attendre, et c'est un peu l'illusion du départ lorsqu'on se rencontre et qu'on est très amoureux, de penser que l'autre va nous combler. Donc on attend que cet amour comble, et il y a des moments où on se retrouve, et en effet on peut vivre cette fusion très agréable et qui régénère même le lien. Mais vouloir que ce soit en permanence est un leurre, et c'est vrai que du coup on va expérimenter le manque et voir quelque chose qui surprend beaucoup souvent les conjoints, c'est la solitude. Cette altérité fait qu'on peut se sentir seul dans son couple, on ne peut ne pas toujours se comprendre, et puis il y a le fait de s'adapter à l'autre, il y a un apprivoisement, et comme dit Michel, cet apprivoisement, il peut prendre 60 ans, quoi. Ça prend énormément de temps, rien n'est acquis en fait.
Autre chapitre, mémoire et gratitude. Autre perle, le présent du couple est sans cesse nourri par l'intimité qui date de la rencontre et le mythe d'un destin. Et puis un peu plus loin, la rencontre fondatrice aura besoin d'être mythifiée en la rendant unique pour instaurer une prédestination. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qu'on entend là-dedans, c'est que non seulement il faut en fait avoir, on va dire, une histoire des origines du couple, quitte à ce qu'elle soit revisitée ou mythifiée, mais en plus, on court chacun vers un horizon, c'est ça qu'il faut entendre, le mythe d'un destin, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ce sont des mots qui sont contemporains, parce que mythe, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire qu'on a besoin d'un squelette, on a besoin d'une direction, on a besoin d'un axe, on a besoin d'une finalité, ça se dit aussi comme ça. Et donc, ce n'est pas simplement se laisser aller au jour le jour à des sentiments et à des émotions, qui sont très fortes dans le langage de l'amour, bien sûr, les émotions. Mais il y a quelque chose qui surpasse, qui est par-dessus. Qui est pour moi la vocation de tout homme, qui est d'être aimé et d'aimer. Et donc, si on rejoint cette finalité-là, eh bien, de fait, elle s'incarne d'une façon très concrète, parce que c'est en lavant les casseroles, c'est en étant bienveillant avec l'autre, c'est en allant vider la poubelle, c'est dans tous ces gestes extrêmement quotidiens.
Mais le mythe d'un destin, Michel Martin Prével, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire que chaque couple a comme un horizon, un Graal, ça signifie quoi en fait ? Il doit arriver à se projeter quelque part dans un rêve de ce qu'il aimerait être ?
Alors c'est pas du rêve, parce que c'est cette réalité que Dieu nous propose à chacun, qui est de lui ressembler. Alors c'est pas rien de savoir que le mariage, ça sert à ressembler à Dieu, puisque la source de l'amour est en Dieu, c'est ressembler à Dieu que d'être là sur la terre à s'aimer. Saint Augustin, il dit « là où tu vois l'amour, tu vois Dieu ». Voilà pourquoi on parle d'un destin, d'une vocation, d'une finalité qui est très très haute. Et pourtant, même quand on ne croit pas en Dieu, on peut en vivre. C'est ce qui se passe pour beaucoup de gens qui ne savent peut-être pas que cet amour vient de là et que quand ils s'aiment et qu'ils s'aiment de mieux en mieux, il y a quelque chose d'une présence divine qui est là avec eux.
Mariotte Binet.
Alors en fait, quand un couple se rencontre, il se rencontre toujours de manière particulière. Et comme vous disiez, il a besoin de revisiter cette histoire. Et moi, j'encourage les couples, souvent qui sont en grande difficulté, d'aller reprendre ses habitudes du début. Quand vous vous êtes rencontrés, comment vous étiez, qu'est-ce que vous ressentiez, qu'est-ce que vous disiez, quels étaient les gestes de tendresse. Et ça crée une histoire particulière qui les rend complices, qui donne à leur histoire une teinte unique. Et cette projection d'un mythe, c'est de se dire, ben, il faut donner du sens en fait à la rencontre. Pourquoi on s'est rencontrés tous les deux ? Pourquoi c'est toi ? Pourquoi c'est moi ? Et du coup, il y a une histoire que l'on préécrit, alors qui peut donner lieu à une désillusion à certains moments, surtout quand il y a des épreuves comme une infidélité. J'aurais jamais imaginé ça de toi, comment tu as pu faire ça, etc., avec ce qu'on s'était promis. Mais n'empêche que c'est nécessaire pour justement se projeter dans un avenir qui n'est pas forcément maîtrisable, mais qui donne l'illusion que d'une durée. Voilà, ça a du sens d'être ensemble. Voilà où on va ensemble.
Grandir en couple, je rappelle, c'est le titre de votre livre paru aux éditions des Béatitudes avec ce sous-titre « Semer, cultiver, récolter ». Chers auditeurs, n'oubliez pas que c'est notre radio-don, nous avons besoin de vous si vous voulez qu'on continue à avoir des invités de qualité comme cela et continuer à marquer notre spécificité au sein des médias de votre région, que vous puissiez avoir quelque part un poste sur lequel nous retrouver. Eh bien, on a besoin de vous. Un seul exemple, l'installation d'une antenne, c'est 1000 euros. Voilà, 1000 euros. Vous déduisez ça avec une réduction donc de votre impôt de 66%, vous faites le compte à plusieurs. On évite un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Grandir en couple, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce jeudi. On continue de vous accompagner à l'occasion de ce temps de confinement, en essayant le jeudi de vous accompagner dans votre vie de couple ou de famille, ou dans votre vie de travail avec ces deux émissions, Vie de couple, vie de famille, et Mieux vivre son job. Aujourd'hui, c'est d'une certaine manière une émission Vie de couple, vie de famille avec vous deux. Michel Martin Prével, prêtre religieux de la communauté des Béatitudes et accompagnateur émérite de couple, et Marie-Aude Binet, vous êtes donc conseillère conjugale et familiale, chroniqueuse à cette antenne et co-auteur de cet ouvrage Grandir en couple, paru aux éditions des Béatitudes. Alors l'arbre, on a parlé de la graine, des origines, on a parlé des racines. Maintenant, on va parler du tronc, la vie intérieure, avant de parler à la fin de l'émission donc de la vie extérieure. Ce sont donc les branches, pour reprendre cette image de cet arbre, qui n'a pas envie de devenir un noyer d'Amérique, n'est-ce pas, ou un grand chêne, hein, plutôt qu'un arbre, un arbre brisé en travers d'un chemin. Alors le tronc, je prends le premier chapitre, amour et volonté. Alors je voulais vous lancer là-dessus, Michel Martin Prével, parce que je sais que c'est un de vos mantras. Le couple, c'est un travail de chaque jour. Je prenais l'image de Pénélope. Alors elle était peut-être un peu forcée, parce que on ne défait pas forcément la nuit ce qu'on fait le jour, du moins on l'espère, quoique parfois les nuits sont houleuses. Un travail de chaque jour. Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi vous répétez toujours à l'envi dans les émissions et même après les émissions? Je vous entends souvent dire ça. L'amour, c'est un travail et on ne le sait pas.
Parce que de fait, on le prend trop comme un capital de départ que l'on reçoit. Alors on voit bien ça avec le coup de foudre et le sentiment amoureux, etc. Et puis on va puiser. Et donc c'est la société de consommation, quoi. On vient puiser dans un trésor et puis on a la mentalité que finalement on va essayer que ça dure le plus longtemps possible, peut-être. Mais il y a une idée que l'amour va s'user. Alors on voit tous ces vieux couples, au bout de 20 ans, ben, ils n'ont plus rien à se dire, c'est tout juste, c'est passe-moi le sel à table, etc. Voilà. Alors on a cette image de cet amour-là parce qu'on est dans ce capital qui est, de toute façon, on le prend, on est passif. Et si ça ne marche pas, le couple, ben, ce n'est pas notre faute, quoi. Voilà, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'on va peut-être voir ailleurs. Alors qu'en réalité,
Vous ne caricaturez pas,
c'est... Mais bien sûr, je caricature pour qu'on comprenne cette vision qui est finalement pas du tout dynamique et qui est même un peu qui manque d'espérance parce qu'on n'use pas un capital. On est aussi finalement un peu créateur de l'amour au sens où on y met soit ses actes de volonté. Et moi, je dis beaucoup que l'amour, c'est un acte de volonté, c'est un sentiment que l'on ressent plus ou moins bien. Et c'est parce que je crée de l'attachement, et c'est pour ça que c'est très actif, je crée de l'attachement, parce que c'est tous les jours que je vais dire le matin en partant à ma femme, aujourd'hui, je veux t'aimer.
Marie-Aude Binet, il y a dans ce chapitre, l'amour et volonté, pour le tronc, donc, une autre phrase, une bonne règle de base à retenir, ne pas vouloir changer l'autre, mais réveiller, ça on l'entend de temps en temps, mais la suite pas forcément, mais réveiller le désir de se changer soi-même. Est-ce à dire que dans votre cabinet, même vos mains incitent les gens à essayer de changer eux-mêmes? Ça ressemble presque à de l'accompagnement spirituel, ça.
Et, mais oui,
on se demande qui est le prêtre sur ce plateau.
Et en fait, oui, c'est une évolution. Le couple a cette exigence, comme je disais tout à l'heure, de devoir s'adapter et de s'apprivoiser mutuellement. Donc l'autre nous révèle à nous-mêmes. Quelquefois dans un effet miroir pas très agréable d'ailleurs, et à d'autres moments au contraire c'est assez puissant, ça peut permettre de mettre en valeur nos compétences, nos qualités, nos talents même, et on peut vraiment développer au sein de sa vie conjugale et familiale, déployer des charismes que l'on a personnellement et après les mettre au service des autres à l'extérieur.
Ça veut dire qu'on ne peut pas durer dans le couple ou dans le mariage si on n'est pas décidé en fait soi-même à changer ou à évoluer?
Ah, ça c'est évident, parce qu'à un moment donné ça coincera, puisque dans cet effet miroir, vous savez, il y a plein de données psychologiques où on peut se projeter sur l'autre, on peut projeter sur l'autre pas mal de choses et vice versa. Et si on n'est pas en capacité de prendre des reculs nécessaires pour se remettre en question, à un moment donné ça bloquera. Et c'est ce qui fait que certaines fois des couples ont des crises tellement violentes que ça peut aboutir soit à de la violence verbale ou physique, même au fait de se séparer. Parce que justement, on est touché en plein cœur. Et cette remise en question, elle est, alors elle n'est pas toujours dramatique, hein, comme ce que je viens de citer, mais je prends un exemple actuel. J'ai eu l'année dernière à accompagner un jeune couple où en fait, lui a eu une infidélité et elle s'est sentie poignardée par cette infidélité. Et en fait, ça a réveillé chez elle des blessures antérieures qui font qu'elle a dû se remettre en question sur ce qu'elle attendait réellement de son conjoint, en fait. Et du coup, ça a été douloureux parce qu'elle s'est aperçue qu'elle était trop dépendante. Donc oui, il y a des remises en question, mais souvent ces remises en question, elles sont positives et nécessaires car elles vont permettre de rééquilibrer et réharmoniser la relation et de réaffirmer « je t'aime pour qui tu es, merci d'être qui tu es ». Et c'est légitime aussi de dire « aime-moi pour qui je suis » parce qu'on peut évoluer, on ne va pas se changer non plus totalement.
Allez, je vous propose, on continue, hein, parce que pour chaque chapitre, on pourrait presque y passer un quart d'heure, mais le principe, c'est qu'on picore dans ce tronc, après l'origine, donc les petites graines, les rencontres et sentiments amoureux, et les racines, le tronc, c'est pour vous la vie intérieure. Il y a valeurs communes et émotions, donc c'est à vous entendre comme des ingrédients, en fait, de la vie de couple bien nécessaires. Ces valeurs communes, souvent, c'est ce qu'on dit quand on se prépare au mariage, mais peut-être qu'on en parle même quand on se prépare pas au mariage, autour des premiers vers, qu'est-ce qui nous fait vivre. Ces valeurs communes sont universelles, le respect, la fidélité, le secours et l'assistance, vous citez le code civil. Michel Martin Prével, est-ce à dire que, dans le fond, cette communauté de valeurs, c'est un kit de base, quelle que soit la religion, la confession, l'histoire, ou les valeurs très personnelles, respect, fidélité, secours et assistance.
Oui, parce que c'est comme ça qu'est fait l'homme, et en fait, il s'investit dans ce rapport à un autre, qui est l'autre sexe, qui est à la fois une source de tension et de conflit quelquefois, et en même temps, c'est une attirance, parce que de fait, il y a une règle du jeu qui est inscrite dans le cœur de l'homme comme dans le cœur de la femme, parce qu'on voit bien, encore une fois, qu'on joue entre cette différence entre être soi-même et en même temps être complètement donné à un autre. Et ça, c'est inhérent à ce qu'est l'amour, puisque je disais, il y a deux phases dans l'amour. Il y a deux, c'est être aimé et aimer. Et donc, c'est cette réciproque qui est incroyablement dynamique. Alors, pourquoi il y a ces valeurs chez tout le monde ? Parce que nous sommes tous faits sur ce modèle, nous sommes tous faits à l'image de Dieu, tout simplement. Donc, nous avons ce...
Ça, c'est pas dit dans le code civil, quand même. Hein, c'est...
Oui, mais le code civil, vous savez, c'est imprégné de christianisme, on le sait bien. Quand on parle de fidélité dans le code civil, c'est pas simplement... décider de rester dans la même maison avec la même personne, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est parce que c'est inscrit dans le cœur de l'homme, la fidélité. Quand on pose des questions à des enfants, on leur dit l'amour c'est fait pour durer un an, ou tous les jeunes pensent que l'amour c'est pour toujours. Et même quand on voit le mariage qui devient un peu catastrophique avec trop de gens qui divorcent, les jeunes ils veulent toujours ça encore aujourd'hui. Pour eux, amour c'est toujours. Et c'est pour ça qu'il y a une tension au cœur même de l'homme, qui est que chacun veut vivre cela, la fidélité, se donner du secours l'un à l'autre, l'assistance, c'est être dans la compassion quand il souffre. Ça fait partie, je dirais, de ce qui est beau dans l'homme. Et dans le mariage, on veut vivre ça. Je crois que c'est le commun de tous ceux qui se marient.
Marie-Aude Binet, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, parce que ça paraît une évidence et en fait, ça ne l'est plus aujourd'hui. Je le vois en préparation au mariage et même dans mon cabinet sur des couples qui sont tout jeunes. La plupart du temps, ils n'ont pas parlé de ces valeurs. Ça leur semble des évidences. Je pense ça, donc l'autre le pense. Et en fait, et même dans un même milieu social, on est persuadé que comme on a eu la même éducation, du coup, on a les mêmes valeurs. Et en fait, c'est pas le cas. C'est très important de prendre le temps, au début d'une rencontre, vraiment dans la première année, de parler de ces valeurs communes, voir si elles sont communes ou pas, de voir en quoi il faudra justement s'adapter à l'autre et d'en rediscuter régulièrement tout au long de la vie conjugale parce qu'on évolue. Et du coup, le système de pensée qu'on a à 25 n'est pas le même que celui qu'on a à 50. Et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus parce que ça conditionne le fait de faire des projets ensemble, ça conditionne le choix d'un travail, ça conditionne le choix d'une famille, ça conditionne des moments de crise, quand on parle des crises de quarantaine, cinquantaine, soixantaine, des départs à la retraite, eh bien, ces valeurs-là, on est obligé d'y revenir dans ces moments de crise. Donc si on n'a pas pu régulièrement se remettre d'accord là-dessus, eh bien, ça surajoute dans les conflits.
Autre chapitre, le pardon. Alors il y a à chaque entrée de chapitre un beau dessin et puis une citation, là je vais la lire. La Bible nous enseigne qu'il faut aimer notre prochain et aussi qu'il faut aimer notre ennemi, sans doute parce qu'il s'agit de la même personne. C'est une citation de Chesterton. Le pardon, alors c'est un thème cher aux chrétiens. C'est pareil, on a l'impression parfois que le pardon c'est un horizon, hein, que ce n'est pas bien facile. On le découvre au fur et à mesure de la vie de couple. Là, je vais vous laisser picorer. Moi, ce qui m'a frappé évidemment, c'est le pardon est un choix. On se dit que c'est parfois difficile à entendre, hein, parce que ça implique quelque part qu'on serait le premier à faire le pas, alors qu'on est parfois le premier offensé. Michel Martin-Préval, sur le pardon, qu'est-ce que vous voudriez partager?
Ah, alors là, il y a beaucoup à dire, parce que c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une société qui ne refuse pas le pardon, mais qui souvent le vit avec des faux pardons. Et alors, on est très déçu souvent. On a dit, mais oui, j'ai pardonné, mais c'est pour arriver à ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un apprentissage du pardon, comme sans doute il faut faire aussi un apprentissage de ce qu'est l'amour, l'amour vrai. Alors, le pardon, c'est fou, c'est une folie, et c'est pour ça qu'on a du mal à y rentrer. En tout cas, c'est l'autre ne mérite pas mon pardon.
Vous dites au début d'ailleurs, le pardon ne se mérite pas.
Il ne se mérite pas. L'autre, quand il m'a fait une vacherie, il ne mérite absolument pas qu'on en reste là. Et on a toujours cette envie un peu très pédagogique de montrer à l'autre que ce qu'il a fait et de lui faire comprendre que ça a fait du mal. Alors tu vas voir. Et donc ça, c'est la vengeance, ce petit mécanisme qui est très très présent dans tous nos cœurs. Ce pardon, c'est une folie. Et c'est pour ça que c'est pas à cause de ça qu'il est chrétien, c'est parce que à l'origine c'est Dieu qui est pardon. Moi je dis beaucoup à des couples qui n'arrivent pas à faire ce pas là, c'est difficile quand il y a eu un adultère,
exemple,
un viol, etc. De pardonner à celui qui a fait ça, c'est très difficile. On est d'accord. Mais en réalité c'est simple, c'est décider de mettre un bien là où il y a eu un mal. Et ça c'est génial. Alors on le fait, je crois, plus facilement quand on sait que c'est Dieu qui nous aide à faire ça. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vient pardonner en moi. Parce que moi, de fait, je n'en ai pas la force. Et ce n'est pas parce que je peux, c'est beaucoup plus parce que je veux. Et je me mets en chemin, parce que le pardon, c'est aussi un chemin, c'est pas fait en une fois. C'est pour ça que Jésus, il dit, c'est 70 fois cette fois. Parce que c'est une dynamique, c'est un chemin. Et il faut quelquefois, plus souvent qu'on ne le croit, redire ce pardon. Et c'est ainsi que progressivement, on arrive à trouver la paix, parce que le fruit, c'est la paix.
Ne pas se sentir responsable de l'offenseur, mais de ce que l'on fait de l'offense, et ainsi lâcher prise sur un droit à prendre sur l'offenseur. Mario de Binet, qu'est-ce que vous voudriez ajouter sur le pardon?
Mais au regard aussi de justement, le risque, c'est d'enfermer la personne dans ce qu'il a fait, c'est-à-dire de confondre la personne et ses actes, alors que le pardon permet justement de libérer. De réparer. Et là, sur l'image, l'illustration, les deux oiseaux, hein, puisque le couple est représenté par deux oiseaux dans ce livre, ils sont en train de nettoyer. Donc, c'est-à-dire que le pardon permet aussi de nettoyer la relation de tout ce qui l'entrave. Et la rancœur entrave. Et le désamour entrave. Donc, c'est une manière de redonner de l'oxygène à la relation. C'est sûr que ça peut prendre beaucoup de temps. L'objectif, ce n'est pas de pardonner vite fait, bien fait, parce que souvent, ce sera un faux pardon, mais de pouvoir déjà, pour soi-même et ensuite pour l'autre et la relation, faire ce chemin.
Voilà, j'allais rebondir parce que je voulais encore à nouveau poser une question, mais j'en citerai juste un autre passage. Bien distingué, le pardon accordé librement par l'offensé pour la blessure ressentie et la demande de pardon de l'offenseur jamais imposée pour l'offense causée. Bref, à retrouver dans votre livre. Dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter dans ce parcours sur la vie intérieure, dans cette partie sur la vie intérieure de votre livre, c'est prendre soin de son couple. Alors c'est pareil, on a deux petits oiseaux qui arrosent, enfin en tout cas il y en a un qui fait de la balançoire et l'autre qui arrose l'arbre et les fleurs. Ça aussi, hein, parfois j'ai l'impression que vous vous répétez à l'antenne, hein, mais un couple ça demande du temps, parfois c'est difficile de trouver ce temps. Vous redonnez quelques règles de base ou quelques conseils, un week-end ou moins par an, un voyage tous les deux ou trois ans, un spectacle, un film, essayer d'avoir une activité en commun. Bref, prendre du temps pour ce que vous disiez au début de votre émission, le couple est le premier enfant de lui-même. Dites-vous Mario de Binet, sans être trop injonctif, là c'est quoi la petite musique qu'il faut que chacun ait en tête?
Bien, juste de dire quelle est la place de mon conjoint en fait dans mon couple. Parce que finalement, on a du temps pour tout le monde, sauf pour l'autre. Et souvent, même pour soi, on s'oublie. Et ça, on parlait tout à l'heure de l'évidence de l'amour. Eh bien, en fait, non, l'amour n'est pas une évidence. Et encore une fois, la relation n'est jamais acquise. Donc, elle a besoin en permanence d'être réveillée, alimentée. Donc, quand on prend du temps ensemble, on alimente. Donc, pourquoi priver l'autre d'une nourriture lorsqu'on est en capacité de la lui donner? Et ça, un peu chaque jour. Donc, il y a tous les petits gestes du quotidien, toutes les petites attentions, et puis les moments qui vont être plus prévus. Moi, je dis, aujourd'hui, c'est très clair, on a tous des smartphones. Donc, on est tous en capacité de mettre dans notre agenda un soir par semaine où on se retrouve en couple, on a pris rendez-vous. Ça paraît trop téléguidé, mais pour autant, les couples s'aperçoivent que quand ils le font, ça va mieux, parce que quand ils ne le font pas, ils n'y pensent pas, ils mettent en priorité d'autres choses, que ce soit les réseaux sociaux, les enfants, etc.
Mais c'est-à-dire qu'il y a plein de couples qui mettent des années à mettre ça en place parce qu'ils ne trouvent pas ça glamour de prendre rendez-vous, c'est ça?
Exactement, et pourtant, ils s'aperçoivent au bout d'un moment que ça devient nécessaire, parce que sinon, ils ne mettent plus leur couple en priorité. Et vraiment, aujourd'hui, une des grandes souffrances des couples, c'est d'être passé à côté de leur couple. Les plus grandes crises qui arrivent dans les couples, c'est dû à ça.
C'est-à-dire, pendant des années, en fait, on n'a pas vécu
pendant
10
ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on ne s'est pas occupé du couple. Et ça crée aujourd'hui des grosses crises chez les seniors, qui, à la retraite, n'ont plus rien à se dire, ne savent plus ce qu'ils font ensemble. Donc, parce que ce n'était pas des habitudes qui étaient prises dans les générations précédentes. Mais aujourd'hui, dans le rythme de vie qu'on a, dans la manière de vivre que nous avons, c'est nécessaire. Et c'est vraiment une priorité, c'est de fixer des temps ensemble. En septembre, on se fixe un week-end dans l'année, la date est prise, on sait où vont les enfants, on part ensemble. Et puis, ça donne de la dynamique parce que ce sont autant de projets qui sont renouvelés en permanence. Alors, le but, c'est pas que tout soit prévu au millimètre, mais on sait qu'il y a ces temps qui sont dédiés au couple. C'est rassurant, c'est structurant, et on sait qu'on aura un moment pour parler. Et un moment aussi pour avoir du plaisir. Ce n'est pas que des moments pour régler des comptes, non. C'est des moments pour juste se retrouver un peu comme quand on était jeune.
Michel Martin-Prével, avant qu'on fasse une deuxième pause, le couple comme le premier enfant de lui-même, qu'est-ce que vous voudriez rajouter sur ce point?
C'est cette construction qui se fait qu'on a curieusement un être nouveau à faire ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit que le premier enfant du couple, c'est ce couple lui-même. Et donc ça, c'est quand même un projet extraordinaire. Moi, je trouve que concevoir son couple comme un enfant dont on doit s'occuper, c'est très beau, mais c'est surtout comprendre qu'il a à évoluer et à grandir. Donc encore une fois, un amour qui ne grandit pas, c'est un amour qui va mourir.
Grandir en couple, c'est pour rappel le titre de votre livre, paru aux éditions des Béatitudes. Et chers auditeurs, c'est aussi notre semaine de Radio Don. Voilà, soyez généreux, nous avons besoin de vous, on me le dit et le redit au casque. Un casque justement, un casque c'est 140 euros. Voilà, deux personnes donnent 70 euros et le tour est joué, 70 euros moins la déduction fiscale. J'ai pas fait mes calculs, mais ça doit faire pas loin de 30 euros, guère plus. Voilà, tous les petits dons sont les bienvenue. Cette radio est faite de multiples petits dons, d'une longue rivière de générosité pour qu'elle continue d'exister. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Grandir en couple, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce jeudi de confinement, avec vous, Marie-Aude de Binet, conseillère conjugale et thérapeute, et Michel Martin Prével, prêtre et religieux de la communauté des Béatitudes, co-auteur donc, de cet ouvrage, paru donc aux éditions des Béatitudes. Alors, les feuilles de cet arbre, et les branches et les feuilles, quand on se tient sous l'arbre, et bien de temps en temps, il y a de la tempête. Vous commencez par les épreuves, maladie, chômage, deuil. On pourrait rajouter aussi confinement. Vous rappelez qu'il y a des saisons dans l'amour. Alors, est-ce à dire que des saisons dans l'amour, donc je rappelle les saisons, hein, printemps, été, automne, hiver, je vous laisserai préciser ce qu'il y a derrière. Marie-Aude Binet, tout couple passe par des printemps, des étés, des automnes et des hivers.
Oui,
forcément.
Forcément, de manière plus ou moins prononcée, suivant les époques de la vie. Alors, il y a des couples qui vous diront qu'ils ont une vie assez paisible. En tout cas, bon, mon travail est toujours un peu biaisé, puisque je reçois dans mon cabinet des couples en difficulté. Mais souvent, quand ils me disent ça, « Oh, c'était tranquille, on ne se disputait jamais. » Mais en fait, derrière, c'est des non-dits qui du coup, ont tapissé de manière négative la relation. Ce sont des conflits qui n'ont pas été affrontés. Donc oui, il y a, à partir du moment où on est en authenticité, des moments qui sont plus ou moins faciles. Et il y a des moments de lourde épreuve, alors qui ne sont pas forcément dus au couple lui-même, qui peuvent venir de l'extérieur. Quand on perd un parent, quand on a un enfant qui est malade, quand on perd son travail, n'importe. Et du coup, ces épreuves-là aussi, eh bien, le couple est appelé à les traverser ensemble, alors qu'il y a des ressentis totalement différents, alors qu'il y a une vision du problème différent. Et ça, ça peut faire traverser des hivers où on ne se comprend pas, où on est distant. J'ai régulièrement des couples où il y a eu, la femme a fait une fausse couche, et il y a une très grande différence dans la manière d'appréhender l'événement, et ça peut créer une blessure à long terme, parce qu'il n'y a pas eu de dialogue et d'échange à ce moment-là. Mais il peut y avoir aussi des grands événements ou des petits événements du quotidien qui permettent au couple de retrouver le printemps et l'été. Ça va être quand on va se remettre à avoir des attentions pour l'autre, quand on va prendre du temps ensemble, quand on va se réjouir autour d'un enfant, quand on va célébrer les 60 ans de mariage de ses parents. Enfin voilà, on peut vivre de très belles choses ensemble, la réussite professionnelle de l'un. Et du coup, c'est aussi à chaque couple de se saisir de tout ce positif et de s'en nourrir. Et pendant les moments d'épreuve, de ne pas perdre de vue que le printemps et l'été reviennent toujours.
Michel Martin Prével, les épreuves, aucun couple n'est épargné. Y a-t-il une manière, quelque part, un peu de les anticiper, de mettre en place, entre guillemets, tout ce que vous préconisez dans ce livre? Y a des manières d'arriver plus solide au temps de la tempête, tout de même?
Bien sûr, c'est pour ça que c'est pas dans les épreuves qu'on est souvent le plus à même de faire beaucoup d'efforts, de se pardonner, etc. C'est pour ça que c'est dans le quotidien qu'on apprend ces petits gestes de l'amour, la bienveillance et se décarcasser pour l'autre. Parce que s'habituer à ce que l'amour peut faire quelque chose de la souffrance, c'est ça, dans des choses concrètes et quelquefois un peu limitées. Quand on aura des grosses épreuves, on est beaucoup plus près, de fait, à pouvoir les passer, et ne pas prendre l'épreuve comme un coin qui se met entre les deux époux, mais l'épreuve peut être au contraire là pour conforter les époux, pour les accrocher encore plus l'un à l'autre. On voit des époux qui vivent dans la prière, dans l'effort commun pour passer des grosses épreuves, et ça fait du bien à leur amour. Ils s'en trouvent justement quand l'été revient, pour parler de saison, et ils s'en trouvent effectivement parfaitement comme refaits. Donc l'épreuve n'a pas toujours un sens négatif. C'est vrai que c'est un regard chrétien quand on sait que la croix, elle a une dimension aussi de victoire qui se prépare. Donc ne pas prendre les épreuves comme toujours des freins à l'amour. Ça peut être aussi dans l'autre sens, bien vécu et bien compris, et parce que c'est bien porté par les deux époux, l'épreuve peut au contraire parfaitement faire mûrir l'amour.
Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas, qui disent que l'épreuve est derrière quelque part? Parce qu'on peut aussi avoir la tentation de revenir constamment sur les épreuves, de ne pas savoir aller de l'avant. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des petites clés là-dessus?
Grosso modo, l'épreuve engendre un mal-être, elle engendre des souffrances, et c'est là que quand on voit qu'elles ne sont plus là, de fait on peut parler de certaines guérisons presque, parce que l'épreuve, personne n'en veut. Pourtant, c'est clair, on voit bien quand on est sorti de l'épreuve, parce qu'on retrouve de la paix, on retrouve plus d'amour, on retrouve plus de bienveillance.
Mariotte Binet.
Oui, et vraiment dans mon cabinet, j'accompagne des couples qui vivent cette transformation-là, qui arrivent dans mon cabinet en disant « on est au bord de la rupture, on ne va pas y arriver, c'est insupportable, ça fait trop longtemps que ça dure ». Et après quelques mois de travail, qui voient qu'ils avaient des ressources d'abord, ils reprennent confiance en eux, personnellement et en couple. Et ensuite, ils voient, comme on dit, le bout du tunnel. Donc, ils voient que leur relation avait besoin en fait de changer. Ce n'était pas nécessaire de changer le conjoint. C'était la relation qui avait besoin d'évoluer. Et ça, ce travail sur la relation, il est primordial et redonne très vite, en fait, espoir au couple quand ils voient qu'ils sont en capacité de soigner la relation, de la guérir et du coup, elle va évoluer.
On va finir par deux chapitres. Ce sont les projets et la vie spirituelle. Alors, les projets, vous dites qu'il est bon d'en avoir des petits, des moyens et des grands. Cela fait écho donc à ce qu'on disait au début de l'émission. Chacun doit avoir quelque part comme un mythe fondateur et peut-être aussi un horizon, même si vous rappelez Michel Martin-Prével que l'horizon, c'est de ressembler à Dieu, rien que cela. Le rêve fait partie de la vie conjugale. Mariotte Binet, qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Petits, moyens et grands projets?
Eh bien, les projets, c'est le moteur de la vie de couple. Donc, c'est vrai qu'on a des petits projets au quotidien. Hein. Voilà, je vais aller faire des courses et est-ce que tu as besoin de quelque chose? Voilà. Mais on peut avoir des projets bien plus importants qui sont un jour, on va s'acheter une résidence secondaire pour accueillir nos enfants à la retraite. En tout cas, chacun a souvent des rêves. Et ce qui nourrit un couple aussi, c'est de partager ses rêves. Certains vont se réaliser, d'autres non, mais ils entretiennent une dynamique dans le temps. Et un couple qui n'a plus de projet est un couple qui s'affadit. Et c'est vrai que ces couples-là sont souvent très tristes. Ils se demandent ce qu'ils font ensemble puisqu'ils n'arrivent plus à rien partager. Donc le fait de faire des projets, rien que d'en parler est déjà un premier partage.
Faut-il commencer quand tout est fade par les petits et les grands projets? Faut-il acheter un canapé comme vous dites
On est en plein confinement. Dans la théorie, on peut rien faire. Et pourtant, on peut déjà partager sur ce qu'on aimerait faire après ce confinement. Voilà, ça commence par là. Et ça commence par peut-être en rire aussi, mettre de l'humour dans ce qu'on aimerait faire ensemble. Et puis, se réjouir de déjà tout ce qu'on peut faire au quotidien. Avoir le projet de se dire, demain matin, je lui prépare son petit déjeuner par surprise. C'est un projet du quotidien.
Le rêve, hein, ça c'est un mot qui revient souvent dans la bouche du pape François. Hein. Il dit souvent ça, il ose même le dire aux plus pauvres. C'était la première rencontre mondiale, la première journée mondiale des pauvres. Le pape François avait posé ses notes et il avait dit « Ayez des rêves ». Et c'était culotté de dire ça aux plus pauvres d'entre nous. On va finir par la vie spirituelle. Michel Martin-Prével, ça aussi c'est un de vos grands, on va dire, dada. La citation elle est d'un autre prêtre décédé, Denis Sonnet, apôtre de l'amour aussi et des couples. On cherche Dieu partout et on le possède dans le conjoint, mais il n'est pas Dieu, nous dit Denis Sonnet. Sur la vie spirituelle, qu'est-ce que vous diriez? Et peut-être en essayant de vous adresser à ceux qui ne sont pas, on va dire, des chrétiens fervents, pratiquants et fervents, comment est-ce qu'on avance?
Ben, je dirais que la vie spirituelle, c'est pas entièrement un choix, c'est surtout parce que l'on baigne. Parce que sans le savoir, Dieu est avec nous. On n'est pas seul, Dieu est là. Et même quand on n'a pas la foi, je crois qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde cherche Dieu. Voilà. Alors on l'a trouvé plus ou moins vite, et quand on l'a trouvé, on a quelquefois amené aussi à en douter. Mais en tout cas, on est dans un bain. Benoît XVI disait qu'on est dans un bain de Dieu. Et Malraux disait que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et aujourd'hui, on est dans une époque comme ça. Les gens sont peut-être indifférents, mais ils ne sont pas hostiles à Dieu. Et en fait, on le cherche. Alors le couple, c'est vraiment le lieu par excellence où Dieu aime se promener, comme il le faisait dans le jardin de l'Éden avec Adam et Ève. Il est là. Et parce qu'il est là, on peut faire cet effort de se mettre en sa présence. Et c'est toute la vie spirituelle, la prière particulièrement, que le couple peut vivre alors très régulièrement parce que c'est un facteur d'unité impressionnant, parce que Dieu est là au milieu des époux, non pas pour être celui qui vient faire de la morale, dire il ne faut pas faire ça, il faut faire cela, mais au contraire, pour leur rappeler qu'il est comme l'auteur de ce vin nouveau qui leur est donné quand ils vivent ensemble et qu'ils osent se donner l'un à l'autre. Dieu se réjouit particulièrement de voir des époux dans une union sexuelle. Ça, pour lui, c'est le sommet de ce qu'il a fait. Et donc, la sexualité, qui est une zone très délicate et très intime des personnes humaines, comme la vie spirituelle, la foi, qui est aussi une autre zone délicate, eh bien, dans le mariage, on arrive à une telle intimité que forcément, il y a dans ces deux zones délicates, vous voyez, c'est le plus haut et le plus trivial, il y a dans ces deux zones délicates une très grande force à vivre cet amour qui est très incarné. Alors, parce que la vie spirituelle, c'est très incarné, justement, dans le mariage.
Il y a une autre mention, peut-être pour ceux qui se seraient déjà lancés dans la prière, c'est quelque chose aussi qui vous est cher, je le sais, c'est la prière en couple, surtout courte mais fidèle. C'est quoi la prière en couple, Michel-Martin Prével ?
Ben, c'est se dire tout simplement qu'on est quand même pauvre, qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut faire de mieux, et on est capable de se reconnaître comme deux pauvres, un peu blessés, on ne s'est pas toujours dit des bonnes choses. Mais écoute, Seigneur, voilà, tu nous prends comme on est, et on est heureux de se prendre par la main, de prendre un petit temps de silence ensemble pour se mettre sous ce regard de Dieu. On peut dire une prière que l'on aime bien ensemble, on peut lire la parole de Dieu. On fait quelque chose de très simple, mais c'est parce que c'est fait tous les jours, comme on se lave les dents tous les jours, on mange tous les jours, on va aller nourrir son âme ensemble, tous les deux. Et c'est comme ça qu'une sorte d'influence aussi peut se faire de l'un sur l'autre. On sait bien que dans les couples, très souvent, il y en a un qui a la foi et l'autre pratiquement pas. Et pourtant, ça fonctionne, ça. Saint Paul, il a remarqué que la femme non-croyante sanctifie son mari. Et vice-versa, ça marche dans les deux sens. Et donc, avoir la foi comme ça pour l'autre, même dans ce cas-là, ça fonctionne. Et il est beau, quand on est marié, de faire cette petite place à l'autre, même quand on est en plein doute et qu'on ne croit pas tout à fait, de dire ben, c'est un beau moment où on peut se retrouver ainsi comme ça, sous le regard de Dieu.
Grandir en couple, semer, cultiver, récolter, c'est donc, pour rappel une dernière fois, le titre de votre livre, Michel-Martin Prével et Marie-Aude Binet, paru aux éditions des Béatitudes, à acheter, à parcourir, à avoir dans son sac à main, ou alors à parcourir à l'occasion d'une soirée en amoureux. Chers auditeurs, je vous rappelle que c'est notre radio-don, soyez généreux, nous avons besoin de vous. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.